Une bonjour à chacun, ça fait plaisir de voir vos sourires. Moi, après tous mes voyages aux quatre coins de l'horizon, j'en reviens toujours au même constat. La plus belle des choses qui nous reste sur la terre, c'est l'Église que Jésus bâtit. Amen. Et quand je revenais des Antilles ou des pays où il fait plus souvent soleil que la pluie, je disais souvent aux bien-aimés, les grandes richesses de votre île, ce n'est pas la canne à sucre, ce n'est pas le rhum, mais c'est les bien-aimés que vous êtes. Ça, c'est des valeurs sûres qui font la richesse de votre île. Les dernières paroles des grands hommes valent leur pesant de lettres. Les dernières paroles des mourants en disent long sur ce qu'a été le combat de toute une vie. Savez-vous quelles ont été les dernières paroles du grand Napoléon ? Sur son lit de mort, Napoléon a déclaré « Je meurs avant mon heure et mon corps sera rendu à la terre afin de nourrir les vers. Voilà le sort imminent qui est réservé au grand Napoléon. » Gandhi, ce chef religieux hindou, a déclaré à l'approche de la mort « Tout en moi n'est qu'obscurité. Pour la première fois en 50 ans, je me retrouve dans l'abîme du désespoir. Je prie pour la lumière. » Et puis enfin, un homme d'État du 19e siècle, Talleyrand. On a retrouvé, il est mort à 83 ans, et on a retrouvé sur la table de chevet une note écrite de sa main. Et voilà ce que Talleyrand avait légué à la postérité. « Voici 83 années d'envolée. Que de soucis, que d'agitation, que d'angoisse, que de rancune, que de complications regrettables. Et tout cela sans d'autre résultat qu'une grande fatigue pour l'esprit et le corps, qu'un sentiment profond de découragement par rapport à l'avenir et qu'un regard tourmenté sur le passé. » Mon épouse a terminé sa carrière d'infirmière en tant qu'infirmière de nuit. Elle a repris son job d'infirmière après avoir après avoir bénéficié de 17 années de disponibilité. Quand on est fonctionnaire, il y a quand même des avantages. Elle a vu les enfants grandir et quand il a fallu payer des écoles d'ingénieurs, elle a repris son job d'infirmière la nuit pour moins déstabiliser la famille. Une infirmière de nuit pour 130 lits. Et elle me dit que le soir, eh bien, il fallait faire le tour. Et ben, c'était une distributrice de pilules et de médicaments. Et elle me disait, mais ses mamies, ses papys auraient plutôt eu besoin qu'on s'assoie sur le lit, qu'on les prenne la main et qu'on passe 10, 15 ou 20 minutes à les écouter, à les encourager. Quand on fait des visites dans les EHPAD, c'est pas toujours simple. Alors, je ne veux pas généraliser, mais parfois, on voit des papis, des mamies dont les enfants ne viennent plus du tout les visiter. On entend parfois des regrets, des blessures, de l'apitoiement sur soi. Quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire, le passé est bien sombre. Alors que quand on lit les dernières paroles de l'apôtre Paul, ça tranche. On est dans un autre registre. Parce que Paul va nous dire « J'ai rempli ma mission ». Dans un EHPAD, on entend de la déception, du pessimisme, de la frustration, du découragement parfois. Paul, par la grâce de Dieu, il a le sentiment et la satisfaction du devoir accompli. Un peu comme Jésus, quand il est mort sur la croix, il a pu dire « tout est accompli ». Jésus avait coché toutes les cases sur la feuille de route que le Père lui avait assignée. Aucun regret et aucun sentiment d'être passé à côté de l'essentiel. Et puis en EHPAD, on entend parfois des accusations, des murmures, de l'amertume. Quand on lit les dernières paroles de Paul, Paul est très réaliste. Il pose un regard réaliste sur la vie telle qu'elle est, telle qu'elle a été. Aucune volonté de vengeance. Vous lui auriez fait passer une IRM sans rendez-vous et gratuitement, que vous n'auriez trouvé aucune trace d'amertume, de rancune, et encore moins de volonté de vengeance, mais plutôt de la reconnaissance. Et puis Paul, on peut dire, il a terminé son parcours en étant apaisé. Mes amis, on a l'impression d'être sur une autre planète. Alors on a dit que la deuxième à Timothée constitue l'héritage que Paul transmet à la nouvelle génération. Alors on a dit que on résume cette deuxième lettre, Paul dit à Timothée, tu vis dans un monde en déroute. Et il y a bien des signes parce que les gens aiment égo, aiment l'argent, aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont une apparence de spiritualité, mais qui en renie ce qui en fait la force et ce qui en constitue l'essentiel. Timothée, par la grâce de Dieu, il te faut tenir dans ce monde en déroute. Et là, c'est du grand art, dans cette grande finale de ce quatrième chapitre, dans les versets 6 à 22, Paul va nous donner une leçon sur l'art de bien terminer sa course dans ce monde en déroute. Alors, petit rappel, nous avons dit que Paul nous a dit que pour pouvoir tenir, il faut se fortifier dans la grâce. Il faut veiller sur notre ressourcement personnel. Et puis, Paul a exhorté Timothée à transmettre ce qu'il avait reçu. Lui-même, Paul, ce qu'il a reçu, il l'a transmis et il encourage Timothée à faire des disciples et à le transmettre. Paul a exhorté son protégé à focaliser son attention sur des modèles qui vont le tirer vers le haut, qui vont l'inspirer et lui donner envie d'aimer Jésus davantage pour que Timothée soit un chrétien fidèle que Dieu peut approuver. Et puis, on a entendu l'appel de Paul à rester attaché à la vérité de la parole de Dieu et Paul de dire à Timothée, proclame la parole, rien que la parole, toute la parole. Et Paul a exhorté son protégé à accomplir avec intégrité le ministère auquel Dieu l'a appelé. Voilà, à grands traits brossés, ce que nous avons vu hier. Alors, dans le texte du jour, les versets 6 à 22, d'abord, dans les versets 6 à 8, on va voir une épitaphe en guise de bilan que Paul appose d'une façon prémonitoire sur sa pierre tombale. En regardant dans le rétroviseur de l'histoire, parce que la vie est faite de relations, Paul va faire un bilan. Il va poser un état des lieux de son rapport à autrui. La vie est faite de relations. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a résumé l'enseignement de toute la loi et de tout l'Ancien Testament, et c'est là toute l'éthique de la Nouvelle Alliance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et Paul va deux colonnes. Il y a ceux qui ont fait partie de son équipe et puis ceux qui étaient dans l'équipe adverse. Ou, au passage, certains qui ont viré leur cutie et qui sont passés d'une colonne à l'autre. Et en troisième lieu, me semble-t-il, dans ces versets 11 à 13, l'apôtre Paul va nous donner, et c'est du grand art, chapeau, monsieur Paul, une grande leçon sur l'art de conjuguer notre humanité avec la véritable spiritualité. La meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est de ressembler à Jésus. Et aimer Dieu de tout son cœur et suivre Jésus, c'est certainement la meilleure manière de devenir pleinement homme, pleinement femme. Le meilleur homme, la meilleure femme que je puisse devenir dans ma ressemblance à Jésus. Petite parenthèse, Jésus a vécu solo. Il était parfaitement équilibré, épanoui dans toutes les dimensions de sa personne. Et faut-il le redire, Jésus incarne l'équilibre d'une personne bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans tous les éléments de sa personne. Parfaitement équilibré, c'est la maturité même. Et on va voir cette belle leçon de conjuguer l'humanité ou la féminité avec la spiritualité. Et trop souvent, on pense qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre. Alors que la réponse, c'est ni l'un sans l'autre. Pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Et puis, Paul, d'une manière réaliste, il a encaissé, il a pris des coups. Il a encaissé des blessures de guerre. Et il ne vit pas dans le déni. Il ne va pas cacher ses blessures sous le tapis pour préserver son image de marque. Vous savez, parfois, moi j'ai beaucoup voyagé et j'étais souvent invité chez les chrétiens et parfois, la maîtresse de maison, s'excusant à la fin de son repas, me dit « mais je suis désolé, mais aujourd'hui, vraiment, c'était raté. Ben, » moi, je lui dis « écoutez, quand c'est raté, c'est tellement bon, ben, qu'est-ce que ça doit être quand c'est réussi hein ?» Parce que, bien sûr, qu'elle se sous-estimait et elle voyait ce qui était négatif, mais franchement, il n'y avait pas mort d'homme. La preuve, regardez, je me porte bien. Assumer les déceptions et les injustices de la vie ou du ministère sans rancœur. Et puis, malgré tout ça, dans les versets 19 à 22, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ben moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Oui, être chrétien, ce n'est pas toujours simple. L'Église qui est censée être un espace où on offre la grâce, parfois, on prend des coups et l'Église peut devenir un milieu blessant. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup de ces chrétiens au bord du chemin. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui m'a valu beaucoup de courriers, « Lettre ouverte à des chrétiens blessés » qu'on trouve au bord du chemin. Des chrétiens blessés pour toutes sortes de raisons. Parfois, il y a des milieux où on a pris la loi pour taper sur tout ce qui bouge, on a serré des boulons, un légalisme invivable. Parfois, au contraire, c'était une situation de vie d'église mal gérée dans ce qu'on appelle la discipline ecclésiastique. Ça pouvait être un serviteur qui est tombé là où il n'aurait jamais dû tomber. Ça pouvait être une église qui est partie en chips et qui s'est divisée. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut, j'allais dire, être tenté de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et on va voir que Paul n'a pas été épargné. Et malgré tout, lui qui a bourlingué, qui a donné 30 ans de sa vie pour implanter des églises, au final, qu'est-ce qu'il nous dit ? Continuez de faire ce que vous faites. Vous êtes dans les clous. Il ne faut pas changer de trajectoire. Tout à l'heure, je rappelais à quelqu'un, en 2003, il y a un journal qui a fait la une. Sur la première page, le Nouvel Observateur, Bush, la secte des évangéliques qui veut conquérir le monde. Et quand les responsables des différents mouvements évangéliques en France se sont retrouvés et ont entendu que dans les médias, on parlait des évangélistes, après on leur a expliqué qu'il fallait dire les évangéliques, quand ils se sont dit, mais là on se trompe de cible en se tirant les uns contre les autres. Parce qu'il a fallu que les évangéliques en France disent, mais attendez, nous, on n'a rien à voir avec l'évangélisme nord-américain de l'époque qui mélangeait la politique et la religion. Et parfois, on a assimilé les évangéliques gaulois aux évangéliques latinos ou de certains pays d'Afrique dans des excès, parce qu'en France, on préfère parler des trains qui arrivent en retard de ceux qui arrivent à l'heure. Et donc, parfois, on assimilait les évangéliques à des personnes qui n'étaient guère fréquentables ou recommandables. Mais à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience dans les états-majors des mouvements évangéliques en France, et on s'est dit, on a des moyens limités, ne nous trompons pas de cible. Le défi, c'est de voir la France évangélisée. Et si nous voulons voir la France évangélisée, il faut implanter de nouvelles églises. En 1950, en France, il y avait 50 000 évangéliques. Début des années 90, il y en avait un peu plus de 500 000. Aujourd'hui, d'après Sébastien Fatt, chercheur au CNRS, il y en a plus de 1,2 million. Donc c'est la petite bête qui monte. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui avec le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, c'est que si on veut voir la France évangélisée, il faut implanter de nouvelles églises. Et le mot d'ordre, c'est une église évangélique pour 10 000 habitants, alors qu'on est en ce moment à une église évangélique pour 30 000 habitants. En Guadeloupe, Martinique et en Guyane française, on est à une église pour 6 000 habitants. Et bienvenue à tous les bien-aimés des îles qui sont venus et qui sont souvent devenus des cadres dans nos églises évangéliques naissantes. Je vous dis ceci pour vous dire cela, et même mon ordinateur, il trouve que je parle un peu trop parce qu'il a arrêté là. Je vous dis ceci pour vous dire cela, c'est que l'Église, telle que Dieu la veut, c'est Jésus la seule planche de salut pour le monde. Mais implanter des nouvelles églises, avoir une vision d'évangélisation conquérante, comme nombre d'entre vous vous l'avez, vous êtes dans le sujet. Ne changez rien, restez comme vous êtes. On va vous encourager à aller plus loin. Donc voilà le menu de ce matin. On va prier. Seigneur, nous te confions ces moments pour qu'ils soient utiles. Éclaire-nous par ton esprit que la vérité de la parole de Dieu puisse trouver le chemin de notre cœur et élargis notre vision de ta personne, de ta grâce, de Jésus mort et ressuscité et de ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres au nom de Jésus. Amen. Alors Paul, dans les versets 6 à 8, il nous offre une épitaphe qu'on aurait pu inscrire sur sa pierre tombale en guise de bilan. Verset 6, alors il y a le présent, le passé et l'avenir. Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. Alors Paul, en tant que citoyen romain, il sait qu'il ne va pas mourir crucifié, mais décapité. Et il est très lucide. La libation, c'était ce qui accompagnait un sacrifice que Dieu pouvait approuver. Et il avait le sentiment qu'en offrant sa vie au service de Dieu, au point d'accepter la décapitation, eh bien, c'était une preuve d'amour envers son Seigneur. Le moment de mon départ approche. Toutefois, il espère le retour proche de Timothée, qu'il vienne le voir. parce que tous ses amis, ses collaborateurs l'avaient abandonné, à part Luc, le médecin bien-aimé. Le moment de mon départ approche. Ce terme qu'il utilise pour décrire la mort, il est très évocateur. Ce mot « départ » peut être associé au moins à quatre idées particulières. D'abord, il y a l'idée d'un matelot qui lève l'ancre et qui va quitter le port pour s'en aller vers un horizon lointain. Deuxièmement, le fait de détacher ou de partir, c'est le laboureur qui détache une paire de bœufs après une journée de dur labeur. Il y a une libération. Troisièmement, ce départ, ça fait référence au voyageur qui démonte sa tente avant de repartir. Et puis, quatrièmement, ce mot « départ », eh bien, c'est le mot qu'on utilisait en philosophie pour dire qu'on avait trouvé la solution ou l'analyse d'un problème. Vous voyez, c'est très évocateur. Mais pour Paul, oui, la mort, c'est un passage. Ce n'est pas une fin, mais c'est un sas qui va conduire vers une autre réalité. Après cette épitaphe, Paul pose un regard positif sur son parcours, son pèlerinage terrestre. Il y a tellement de gens à la fin de leur vie qui ont le sentiment, si c'était à refaire, d'être passés à côté de l'essentiel. Alors Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Comme j'ai dit, Paul a le sentiment d'avoir rempli le contrat. Il a coché toutes les cases dans cet ordre de route que le Seigneur lui avait confié. « J'ai combattu !» Littéralement, c'est « j'ai agonisé !» Ce n'était pas le club méditerranéen, le ministère de Paul. Ce terme « combattu », c'était un terme utilisé en rapport avec les épreuves d'athlétisme dans les Jeux olympiques de l'époque déjà. Alors, Paul dit « j'ai combattu le bon combat ». Il ne s'est pas trompé de cible. Il a misé, si je puis dire, sur le bon chameau. Il s'est engagé au service de la plus noble des causes qui soit. Tout le monde n'est pas impliqué dans un travail d'implantation d'église, directement parlant. Une maman qui élève ses enfants dans la crainte de Dieu. Nous, les parents ringards qui enseignons à nos enfants à demander pardon quand ils ont fait du mal à quelqu'un d'autre. Sans le savoir, on investit dans la future vie de couple de notre progéniture. Et Dieu sait si dans la vie de couple, les petits mots « pardon, j'ai eu tort »,« je te pardonne », »,« merci », »,« je t'aime », Dieu sait si ces petits mots peuvent faire des miracles dans la vie de couple. On priait ce matin pour la municipalité de Chambourcy. Que Dieu ouvre les yeux de nos travailleurs sociaux pour qu'ils comprennent que les églises évangéliques correctes sont des acteurs positifs et bienfaiteurs ou bienfaisants qui promeuvent le bien-vivre en société avec les valeurs tirées de l'Évangile qu'ils promeuvent. Et dans nos églises, quand on enseigne la vérité de la parole de Dieu, quand on enseigne sur la vie de couple, c'est une éthique citoyenne. On recherche le bien du pays, de la communauté où Dieu nous a placés. Voilà. Dès que Michel se lève, l'ordinateur... Merci Michel. Paul dit, j'ai achevé la course. Il y a des gens qui abandonnent avant de franchir la ligne d'arrivée. On voit des jeunes chrétiens qui partent sur les chapeaux de roue, ça pétarade dans tous les sens, le défi c'est, attention, il faut tenir dans la durée. Parce que la vie chrétienne, on est d'accord, ça ressemble plutôt à un marathon qu'à un sprint sur 100 mètres. Et puis Paul peut dire, par la grâce de Dieu, j'ai gardé la foi, verset 8. Et je sais qu'une couronne m'est réservée, ainsi qu'à tous ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur. J'ai eu un ministère itinérant et avec ma femme, parfois, je dis, on a dû être, ça fait que 47 ans qu'on est mariés, mais je pense que des fois, on était mariés à mi-temps, j'ai l'impression. Mais moi, j'aime à lui dire qu'au ciel, elle, elle aura la couronne. Moi, j'aurai le carton d'emballage. Bon, je pense qu'il y aura assez de couronne pour tout le monde, mais en tout cas, je suis conscient que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si elle n'avait pas été avec moi et derrière moi. Et Dieu sait si, bien souvent, on voit les gens qui sont sur l'estrade, mais il y en a d'autres dans les coulisses qui ont travaillé dur. C'est comme dans une équipe de foot, hein. C'est pas celui qui marque le but, il y a quelqu'un qui lui a fait la passe, hein. Et puis il y en a d'autres. Bon, j'arrête là mon histoire. Le passé, et puis quand il regarde vers l'avenir, eh bien, le futur de Paul, il ne manque pas d'avenir. Parce que Paul, oui, j'ai le sentiment d'avoir rempli le contrat, désormais la gloire et la récompense, la couronne m'est réservée. L'Écriture parle de la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne incorruptible de la gloire. Nous, les protestants évangéliques, on est frileux dès lors qu'il est question de parler des récompenses, parce qu'on a peur d'attenter à la doctrine de la grâce. Mais comme a bien dit Augustin, Dieu nous comble de ses bienfaits et il couronne la grâce qu'il nous fait de ses dons, grâce sur grâce. Alors Paul, après avoir fait un petit bilan passé, présent, avenir, il va faire le bilan de sa vie relationnelle. On a dit hier que c'est bien de temps en temps de s'arrêter et de réfléchir dans mon réseau personnel, de relations personnelles. Je suis en relation avec toutes sortes de personnes. Et certaines de ces personnes, alors il y en a qui gonflent mon ego, hein, il y en a d'autres qui me ressourcent, il y en a d'autres au contraire qui me... J'aurais préféré ne pas les croiser sur mon chemin. Bon, vous l'avez compris, quand on fait cet état des lieux, c'est important de savoir si on n'a pas que toutes les personnes dans la même colonne. S'il n'y a que des personnes qui flattent mon ego, c'est pas le but, hein. Alors Paul et il va citer plus d'une quinzaine de personnes. Alors il va parler de Timothée, le fils fidèle, Démas, le déserteur infidèle, et ça fait froid, ça fait mal. Quelqu'un qui a mouillé le maillot avec vous, qui a viré sa cutie. J'ai entendu le témoignage de chrétiens. Oui, moi, j'ai découvert l'Évangile quand je travaillais à l'usine. C'est mon contremaître, il m'a présenté l'Évangile. Et puis, au bout de X années, le contremaître, il a viré sa cutie, il a tout envoyé balader, il a renié la foi. Aïe. Crescens, le fidèle inconnu. Tite, le disciple illustre et fidèle. Luc, le fidèle compagnon, le médecin bien-aimé. Et je pense que ça devait être un grand réconfort pour Paul d'avoir ce médecin bien-aimé à ses côtés. Marc, le petit Jean surnommé Marc, vous savez, le cousin de Barnabas, et acte 15, il y a eu, on n'a pas d'enregistrement audio de l'époque, mais enfin, ça jasait dans cette assemblée générale. Et Marc a été bien promu, auteur du deuxième évangile qui porte son nom. Tichic, le fidèle messager, Carpus, l'autre fidèle, Alexandre, on va y revenir, Alexandre, l'ennemi perfide. S'il y a un Alexandre parmi nous, ce n'est pas de lui dont il est question, nous sommes bien d'accord. Des inconnus infidèles, Christ, le fidèle Seigneur, qui s'est toujours montré présent, comme on l'a entendu dans les témoignages hier soir, au moment les plus critiques. Et puis Paul va évoquer des amis fidèles de longue date. Ça fait plaisir de revoir des frères, des sœurs qu'on a rencontrés il y a X années en arrière. On ne veut pas jouer les anciens combattants, mais de voir des chrétiens de longue date qui aiment Jésus, qui continuent avec Jésus et qui donnent envie de suivre Jésus, bah franchement, ça vaut le coup de les prendre en vidéo et de les mettre sur son blog, même si on n'en a pas. Et puis les nouveaux amis fidèles. Donc, un bilan relationnel, parce que la vie est faite de relations. Alors, à mon niveau, à chacun à son niveau, on peut réfléchir déjà dans ma vie. Il y a des personnes qui m'ont enrichi, qui m'ont fait du bien. Il y en a d'autres, franchement, j'aurais préféré ne jamais croiser leur chemin. C'est la vie telle qu'elle est. Bienvenue au club. Il suffit de poser un regard réaliste sur la situation. Et là, dans ces versets 11 à 14, je trouve que c'est du grand art. Parce que Paul va nous dire que on peut être spirituel tout en restant humain. Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu. Parfaitement équilibré dans toutes les dimensions de sa personne. Et Jésus n'a pas eu à choisir entre être humain ou être divin. Alors d'accord, dans certaines situations, il n'a pas usé des prérogatives que son statut de fils de Dieu lui conférait. Je vous l'accorde. Mais heureusement qu'on voit Jésus pleurer sur le tombeau de Lazare, Jésus fatigué. Il est, j'allais dire, l'un des nôtres. Verset 11, voilà ce que dit Paul. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Derrière un grand homme, il y a plein, j'allais dire, de petites mains ou d'hommes ou de femmes de l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins grands que le personnage en question. Elles font partie de l'équipe. Moi, quand je prêche, je remercie les frères et les sœurs, c'est souvent les sœurs, qui font l'école du dimanche. Parce que moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais si elles ne faisaient pas ce qu'elles font. Sauf que elles, tout le monde ne voit pas ce qu'elles font. Mais on est une équipe. Et il ne faut pas se la jouer perso. Et dans une équipe, dans un sport collectif, on voit tout de suite s'il y en a un qui se la joue perso. Ben, ça ne va pas le faire. Et ce n'est pas le but. Et Paul, le grand homme, eh bien, il a besoin les uns des autres. L'évangile est très sobre, mais quand on lit entre les lignes, on voit que Jésus était entouré et bénéficiait du ministère des femmes, là encore. Hein, on ne veut pas que les femmes prêchent dans l'église, mais quand même, elles font plus que faire le thé ou nettoyer les toilettes, parce que les femmes autour de Jésus, elles ont eu un ministère d'assistance, l'intendance. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, les normes changent et il y a des hommes qui font la cuisine et des femmes qui n'ont pas envie. Bon, ben voilà, hein, c'est chacun selon. Mais enfin, on a besoin les uns des autres. Et Paul, et Dieu sait si quand on est dans une situation vulnérable, on est conscient de notre besoin d'être accompagné ou d'être assisté dans le bon sens du terme. Verset 13. Paul dit, lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Moi, je me suis dit parfois, mais c'est un petit détail, c'est le détail 644 dans la liste. C'est complètement anecdotique. Qu'est-ce que dans l'histoire de l'Église, les hommes, les femmes de foi de tous les coins de la planète ont besoin de ce petit détail? Ah, ben moi, je suis reconnaissant qu'il y soit. J'ai lu un jour un article sur un missionnaire. Qu'est-ce que c'est un missionnaire ? Un missionnaire, ou un homme de Dieu, si vous voulez, c'est quelqu'un, quand il se coupe, ça saigne. Ah ouais ? Ah ben, on le savait, mais ça vaut le coup de redire, parce que trop souvent, on a tendance à mettre sur un piédestal les hommes, les femmes de Dieu, qui disent toujours à leur femme « Oui chérie, tu es d'accord, je suis d'accord avec toi, tu as raison » et ils ne se disputent jamais, évidemment. Il y a une biographie de Hudson Taylor qui est décourageante. Parce que Hudson Taylor, c'était un homme de Dieu remarquable. Il se levait à 4 heures du matin. Pendant 2 heures, il lisait sa Bible. Pendant 1 heure, il priait. Et on ne voit aucune trace de dispute avec sa femme. On se dit, oh ben moi, petit chrétien moyen au 15e étage de ma tour, en banlieue, j'y arrive pas à la cheville. Bon, il y a une autre biographie de Hudson Taylor qui est un peu plus honnête. Et on voit le côté cour et le côté jardin. Mais Paul, moi, j'admire ce grand homme. Du haut de sa spiritualité, il dit, j'ai froid. Apporte-moi le manteau. J'ai des besoins physiques légitimes. Et puis, allez, vous allez tous courir à la CLC ou à la Maison de la Bible. Et il dit, apporte-moi le manteau, mais aussi les livres et surtout les parchemins. Bon, peut-être c'était quelques bribes de manuscrits de l'Ancien Testament ou de brouillons de lettres qu'il avait préparées ou qu'il avait envoyées à l'église d'Éphèse, à Colosse, etc. Mais Dieu sait si un bon livre, ben, ça fait du bien et c'est bon pour le moral. Et puis-je rappeler, dois-je rappeler qu'un bon livre, ben, ça fait plus d'effet qu'un paquet de bonbons. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger des bonbons, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour un cadeau d'anniversaire qui dure, pensez à offrir la Bible d'études du semeur, par exemple. Bon, je ne suis pas payé par Excelsis pour faire la pub, mais je pense que si nos paroissiens lisaient une bonne Bible d'études avec des notes, ben je peux vous dire que le niveau de la classe, il serait bon. Verset 14, Paul dit « Alexandre, le forgeron ou l'orfèvre, selon les traductions, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. » Moi, je suis impressionné par la maturité de Paul. Paul ne vit pas dans le déni. Il a pris des coups, il a pleuré. On a mis du temps dans notre société occidentale à reconnaître que la violence, ce n'est pas seulement physique, ça peut être moral. Ça peut être le harcèlement moral. Hein. C'est seulement dans les années, début des années 90 que Nancy Irigoyen, je crois, elle a parlé du harcèlement moral. Mais il y a la violence verbale. Et Dieu sait si certaines paroles peuvent faire encore plus mal que des coups physiques. Le livre des Proverbes dit que la mort ou la vie, elle est au pouvoir de la langue. Le livre des Proverbes dit même que l'imbécile, tant qu'il n'a rien dit, tout le monde pense qu'il est sage. Mais dès lors qu'il commence à l'ouvrir, ah oui, ok, on sait à qui on a affaire. Mais les paroles, ce n'est pas neutre. Moi, je suis passé dans des églises qui se sont divisées pour toutes sortes de raisons. Il y a des églises qui se sont divisées parce qu'ils considéraient qu'un instrument de musique, ce n'était pas biblique. Le ka, par exemple, c'était païen, donc on ne voulait pas de ka dans l'église. Il y a des églises qui se sont divisées parce qu'on considère qu'une femme devait porter des jupes jusqu'à 10 cm en dessous du genou. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'elle porte des mini-jupes. Mais il y a des églises qui se sont divisées parce qu'une femme n'a pas le droit de se maquiller, ou toutes sortes de raisons. Moi, je suis rarement passé dans des églises où on a reconnu ouvertement que le problème dans l'église, c'était les gens qui n'arrivaient pas à tenir ce petit bout d'affaire qu'elles ont entre les deux maxillaires, qui, curieusement, peut louer l'Éternel. Et le culte à peine terminé, boum, on balance un missile qui peut faire des dégâts pires que le Kalachnikov incontrôlé du djihadiste le plus radical. Je ne sais pas combien de messages vous avez entendus sur le péché de la langue. Moi, j'ai écrit 2 livres sur régler mes problèmes personnels. Et ma femme m'a dit que je peux en trouver encore un troisième parce que je n'ai pas tout réglé. C'est son humour. Fermez la parenthèse. et j'ai inclus l'hypocrisie et les péchés de la langue. Moi, j'admire le réalisme de Paul. Paul, il ne vit pas dans le déni. Il ne cache pas les choses sous le tapis. Il assume la vie telle qu'elle est. Oui, cette personne-là, Alexandre, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal par ses critiques destructrices, négatives, qui démolissent, qui tuent. Jésus a dit que sans cacher des cadavres dans le coffre, dans un placard ou dans le coffre de sa voiture, on peut être un criminel de la pire espèce dès lors qu'on prononce, qu'on accuse quelqu'un d'imbécile. Et là, Jésus est poli. Je vous fais grâce de tous les noms d'oiseaux dont la langue de Victor Hugo est pourvue. Et Jésus dit que celui qui prononce cette parole de malédiction inconsidérée, il est passible du feu de l'enfer. Alors, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, mais aucune trace de vengeance. Qu'est-ce qu'il ajoute, Paul ? Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Paul, il laisse à Dieu le soin de gérer son dossier. Il refuse de prendre les choses en main et de rendre la monnaie de la pièce à Alexandre qui lui a fait beaucoup de mal. Moi, ça me rappelle, vous vous souvenez, le roi David. Il n'avait pas d'ennemis à titre personnel, mais il y a des gens qui voulaient sa peau. Saül. Et à un moment donné où David aurait pu éliminer son ennemi juré, ou celui qu'il avait pris pour cible, David aurait pu mettre à mort Saül, mais David, qu'est-ce qu'il a dit ? « Loin de moi, la pensée de porter la main sur loin de l'Éternel. » Et David a remis à Dieu le soin de gérer son dossier. J'ai rencontré un frère dans une église qui avait hérité d'une affaire familiale, cinquième génération, menuiserie, ébénisterie de choix, cinquième génération. Il s'était associé à un cousin. Au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que le fameux cousin, il piochait dans la caisse, à telle enseigne qu'il a dû mettre la clé sous le paillasson. Et le frère qui avait hérité de cette affaire, cinquième génération, il s'est retrouvé à travailler en usine payée au SMIC. Et il m'a dit, franchement, je ne voudrais pas être à la place de mon cousin. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai ma conscience pour moi. Et devant Dieu, je suis, par la grâce de Dieu, sur ce coup-là et dans ce domaine-là, clean. Je ne voudrais pas être à la place de mon cousin. Il ne s'est pas vengé lui-même, mais il a remis à Dieu le soin. Je peux vous dire, c'est là certainement l'option la plus difficile à prendre, mais c'est la plus radicale, et celle-là, je peux vous le garantir, elle ne risque pas d'enfoncer la sécurité sociale dans le déficit financier plus qu'elle ne l'est déjà. Parce que quand on remet à Dieu le soin de gérer son dossier, on dort mieux la nuit. Hein. Et puis on dit, et de vous à moi, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et on ne voudrait pas être à la place du collègue. Je ne sais plus où j'en suis parce que je ne vois plus rien, mais on y est. Dites-moi, tout à l'heure on disait, je dois remettre à Dieu le soin de gérer mon dossier. On a 150 psaumes dans l'Écriture. Je veux croire que c'est thérapeutique de mettre des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Je veux croire qu'il y a un psaume qui vous ressemble, au moins pour chaque jour de la semaine, mais d'exprimer ce qu'on ressent, c'est thérapeutique et c'est bienfaisant, c'est dans la prière. Et on remet à Dieu, et on a le psaume 31 qu'on a lu tout à l'heure, on retrouve ces accents. Il faut terminer avec « J'ai assumé les déceptions et les injustices sans rancœur ». Alors, les critiques d'Alexandre m'ont fait beaucoup de mal. Et on a vu que la soupape de sécurité, la bouée de sauvetage de Paul, c'était se décharger sur Dieu de toutes ses souffrances et des injustices qu'il a subies, qu'il a encaissées. Paul a dû être déçu de voir des anciens collaborateurs virer leur cutie et quitter l'équipe. Ça fait mal. Vous avez passé tellement vous avez investi tellement d'énergie, vous avez passé tellement de temps avec une personne dans un combat spirituel, et puis ça se termine. Alors Paul relativise. Et il sait qu'il va comparaître devant César. Le vent a tourné, il y a des collaborateurs qui ont viré leur cutie, et Paul fait le constat, tous m'ont abandonné, mais, et le mais il est de taille, le Seigneur, lui, il reste avec moi. Et on l'a entendu dans les témoignages hier. Jésus est la seule valeur sûre, circonflexe sur le URE, sur laquelle, SUR, on peut se poser et être apaisé. Et puis au verset 18, Paul dit, « Je vais partir, mais surtout je vais entrer dans le royaume. » Au bas de la page, quand Paul tire un trait final, il en conclut, il y a la colonne « perte », puis la colonne « profit » ou « charge » et « produit ». Mais au final, il a assumé sa condition et il est prêt à prendre le large. Le moment de mon départ approche. Vous lui auriez rendu visite à la veille de sa comparution devant César, que vous auriez trouvé un homme apaisé. Vous savez, parfois, on visite des gens qui sont terriblement éprouvés. Je connais un jeune qui a 34 ans, il est en phase terminale en ce moment, un cancer foudroyant, il n'y a rien à faire, ça se dégrade de jour en jour, ses jours sont comptés. Quand vous rendez visite à une personne comme ça, franchement, on ne sait pas quoi dire. Mais au moins, si on sait ce qu'il ne faut pas dire, on sauve les meubles. Et la personne, elle a envie de vous revoir. Et on ne risque pas de finir comme les consolateurs fâcheux et les médecins de néant de Job, dont il est question dans le livre de Job. Paul termine en étant un homme parfaitement apaisé et prêt à passer de l'autre côté. Et au final, il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que c'est moi le message que je reçois, verset 19. « Salut Prisca, Aquilas et la famille de Nésiphore. Eraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade, je l'ai laissé à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. » Paul ne renie pas ce dans quoi il a été impliqué pendant une trentaine d'années, implanter des églises aux quatre coins du bassin méditerranéen. Bon, pas dans l'Afrique du Nord. Mais voilà un homme convaincu, motivé, qui a tenu dans la durée. La question que, tôt ou tard, on doit affronter à titre personnel, quel est le bilan positif, négatif de ma vie ? Même si je n'ai que 14, 15, 16, 20 ans, j'ai déjà un parcours de vie. Et c'est bien de temps en temps de faire un check-up, un audit. Mon attitude envers les personnes qui m'ont fait du mal. Comment conjuguer mon humanité ou ma féminité avec ma spiritualité, sans avoir à choisir entre l'un ou l'autre, mais en intégrant parfaitement l'un et l'autre. Face aux déceptions de la vie, aux injustices, comment est-ce que je réagis ? D'un côté, il y a l'amertume, et d'autre côté, il y a le pardon, mais il y a tout un spectre. Et je voudrais quand même ajouter, je ne l'ai pas mise là, mais je voudrais ajouter, quel regard est-ce que je pose sur l'Église locale, dans laquelle j'ai pu vivre des choses fortes et qui m'ont beaucoup aidé à me construire, mais dans laquelle peut-être aussi j'ai dû encaisser des coups durs. Quel regard est-ce que je pose sur l'Église que Jésus bâtit ? On va prier. Seigneur, merci parce que tu as donné ce que toi tu avais de meilleur pour racheter ce que la terre avait de pire. Et ce que le ciel a de meilleur, c'est Jésus que tu as donné pour racheter le pécheur que je suis et par ta grâce et avec la grâce en faire l'Église. Merci pour l'Église que tu bâtis. Merci parce que c'est ton projet, c'est ton idée à toi. Et ça, c'est valable pour toutes les cultures et à toutes les époques. Et merci pour le privilège de faire partie de ton Église, d'être un membre du peuple saint, consacré, dédié à te servir et à t'aimer et à bénir notre prochain. Seigneur, nous prions que tu renouvelles notre vision de ta personne et de ta grâce. Et aide-nous à poser un regard lucide, positif et adulte sur l'Église où tu nous as placés. Montre-nous comment nous pouvons en être une pierre vivante. Et fais de chacun d'entre nous des instruments de ta grâce. Nous nous attendons à toi, nous te disons merci, nous t'adorons et nous nous aimons. Au nom de Jésus. Amen. Amen.